Des poches sous les yeux, l'émission.
Eh bien, bienvenue dans Des poches, l'émission. Comme tous les derniers samedis du mois, nous sommes aujourd'hui en direct du Comptoir des Arts. Le Comptoir des Arts, mais qu'est-ce que c'est que cette nouveauté ? Décidément, ça bouge sur tour. Hein. Après la clinique du street art, le soleil, voici le nouveau lieu hype de la métropole. Alors forcément, Des poches a eu envie d'y poser son studio mobile. Alors au sommaire de cette émission, interview, chronique et naturellement un inénarrable nouvel épisode de notre feuilleton radiophonique, La Bourboule Parano. On commence avec Amandine Lopez. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Qui officiait déjà aux manettes de la clinique du street art hein, et qu'on retrouve ici comme par hasard derrière le Comptoir des Arts. Alors on va parler un petit peu de ce lieu et Amandine, tu n'es pas toute seule, il y a aussi Pauline, bonjour.
Bonjour Pascal.
Alors on va d'abord parler de, non pas d'abord du Comptoir des Arts, mais des courants d'art, parce que si les Comptoirs des Arts est là, c'est à cause des courants d'art qui ont investi la chambre de commerce et d'industrie, enfin l'ex chambre de commerce et d'industrie. Pauline, tu es sûrement plus capable qu'Amandine de nous parler du concept des courants d'art.
Non, mais c'est pas grave. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les courants d'art, bah, c'est une proposition qui a été faite par Clément Minier et Violaine, en fait, qui ont un lieu d'exposition à Beaulieu-les-Loges, qui accueille déjà pas mal d'artistes. Je crois qu'ils sont presque 40-50, quelque chose comme ça. Et enfin, il y a aussi des brocanteurs. Et ils ont un petit peu déménagé ici. Alors Beaulieu existe toujours, bien sûr, et puis c'est pérenne. Et là, en fait, il y a eu la possibilité d'investir ces lieux pour un an avec des artistes, artisans, métiers d'art et quelques brocanteurs, puisqu'on en discutait avec Clément qui nous disait que la brocante, les vieilles choses, c'est aussi des gardiens du patrimoine. Et donc oui, on est là jusqu'à mai l'année prochaine. Et que vous dire d'autre, si ce n'est qu'il faut venir, absolument. C'est ouais. Du mercredi au dimanche, à partir de 10h.
Voilà, et donc c'est un lieu d'expo, mais de vente aussi. Donc,
ah, bien sûr, voilà. bien sûr. Et il y en a absolument pour tout le monde. Que ce soit des tableaux, des sculptures, je pourrais vous faire une heure sur la girafe qui est dans la cour. Oui. Il faut avoir un grand jardin, elle fait 6 mètres, mais pourquoi pas. Il y a aussi des choses textiles, des bijoux, il y a du cuir, des maroquiniers. Enfin, vraiment, il y en a pour absolument tout le monde.
Tout le monde et tous les prix.
Et tous les prix.
C'est important. Il y a des objets très chers.
C'est un budget. Oui, c'est un budget. Voilà, parce qu'il y a du travail derrière, beaucoup. De l'art, du savoir-faire, du talent même. Oui, il y en a pour absolument tout le monde, ouais. Y compris pour les prix. Ouais.
Et donc, à sa tête, Clément Minier, vous pouvez nous le présenter, l'une ou l'autre?
Je peux vous en parler rapidement. Donc Clément Minier, qui était l'ancien directeur de la SET, oui. Qui a quitté ses fonctions et qui est président de l'association Les Courants d'Art, initialement à Beaulieu-les-Loches, et qui a proposé d'investir ce lieu pour une deuxième partie des Courants d'Art à Tours.
D'accord. Et un lieu qui appartenait ou qui appartient
Qui appartient toujours au département, et qui nous met à disposition. Il y a une petite location de la part des Courants d'Art. Tous les 2 mois, il y a un tarif, on me souffle dans l'oreille, qui est alloué, donc c'est pas vraiment une mise à disposition, mais il y a le lieu qui nous est prêté.
D'accord. C'est ouvert depuis combien de temps ?
Depuis le 26 avril.
26 avril, et quelle est la réaction des Tourangelles et des Tourangeaux ?
Ils ont l'air plutôt très satisfaits, ouais. Et très contents que ce lieu soit réhabilité.
Très très bon retour.
Et de revenir dans un lieu patrimonial comme celui-ci.
Ouais, un lieu que le commun des mortels ne visitait jamais.
Le tribunal du commerce, c'est pas ce qu'on visite en premier, effectivement. Mais moi, j'ai eu que de très très bons retours de gens qui sont à la fois ravis, plaisir des yeux par tout ce qu'il y a, et l'écrin qui est absolument magnifique, un mélange d'univers, ouais, effectivement, sachant que c'est vivant. Bah, d'abord parce qu'on est là aussi, et puis parce qu'il y a un roulement. Les artistes et artisans, il y a des changements tous les 2 mois, à peu près.
Ça veut dire que toi, tu es là, Pauline, mais peut-être que dans 2 mois, tu vas être virée.
Peut-être. peut-être. Mais bon, j'espère. Ouais, faut qu'on demande à rester régulièrement.
Ça veut dire, est-ce que vous savez, il y a un jury qui retient les artistes et artisans.
C'est les secrets de fabrication de Clément.
Ouais,
ça.
Je pense que l'idée c'est d'avoir de la variété aussi. Hein. Enfin voilà, et de pas avoir des artisans qui font tous la même chose. Donc je pense que l'idée c'est de faire tourner un peu les artisans et les propositions qui arrivent pour qu'effectivement le public puisse avoir des propositions variées.
D'accord. Si on veut exposer, on fait quoi ? On prend rendez-vous avec Clément.
Alors il y a un appel qui a été lancé là justement, ouais. Donc il faut pas hésiter à répondre à cet appel. Et effectivement, c'est les courants d'art, et j'en profite pour bien le redire parce que moi je reçois beaucoup de propositions via le comptoir des arts, des gens qui veulent exposer. Je leur dis non, ce n'est pas moi. Donc l'exposition, les artisans, c'est les courants d'art.
Il faut être pro. Ouais, être à son compte.
Voilà,
ouais.
Il faut avoir un numéro Siret, d'accord. Ouais. Mais finalement, c'est assez facile. Oui. D'ailleurs, tous les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses de Touraine, de toute façon, pour pouvoir avoir ce fameux numéro Siret, en tout cas de mon temps, il fallait faire un stage à la Chambre de commerce.
Voilà, par exemple.
Donc, très bien. Et donc, non seulement on a cette expo, donc redites les heures d'ouverture.
Alors c'est du mercredi au dimanche de 10h à 19h pour la partie exposition. Et des fois un petit peu plus comme on a pu faire sur la nuit des musées, voilà des choses comme ça. Il y aura les journées du patrimoine le 20 et 21 septembre où je pense que là on fera du rab.
D'accord. Et donc adossé au courant d'art, il y a le comptoir des arts, hein, là où on est aujourd'hui, c'est dans l'ancienne cour dans la cour de l'ancienne chambre de commerce. Donc là, le principe, c'est quoi ? C'est d'allier exposition et binouze.
Ouais, alors pas que, mais en fait Clément Minier est venu nous chercher et l'idée c'était de nous faire une proposition qui collait aux valeurs et aux projets des courants d'art avant tout. C'était le local, les valeurs voilà du vivant autour de l'art. Donc voilà, nous c'est un peu les propositions qu'on a décidé de faire aussi et qui collent aussi à nos valeurs, donc ça tombe plutôt bien. Mais voilà, que ce soit sur les produits qu'on peut proposer à la restauration et au bar, effectivement, de mettre en avant les producteurs locaux. Et dans notre programmation artistique, de faire de la proposition pluridisciplinaire, variée. Là, on a eu beaucoup de concerts, mais on va avoir aussi beaucoup de théâtre, de la danse. Voilà.
Donc avec des animations, il n'y a pas trop de problèmes de nuisance, puisque là, on est quand même en plein quartier d'habitation.
Eh ben pour l'instant, tout va bien. Après, nous, on s'est couvert de toute manière. On a une étude d'impact sonore qui prouve que du coup, le son que nous mettons de toute manière respecte la réglementation. On verra sur le long terme, mais pour l'instant, notre public semble plutôt favorable à ce qu'on soit ici.
De toute façon, il n'y a pas vocation non plus à faire des choses qui soient, en termes de décibels, hyper sonores.
On ne va pas faire du métal. C'est pas dans notre proposition.
Mais la musique électronique, par exemple, avec les sub-basses, ça peut...
Y a la fête de la musique, on a le droit, donc ça tombe bien. Effectivement, on aura les îlots électroniques qui vont participer à la fête de la musique. On a investi la place Beaune de Semblancé, voilà.
D'accord, juste en
on
face.
On s'élargit, exactement.
Alors, le petit monde et sa guinguette ne font pas la gueule d'avoir une concurrence si proche ?
Ils sont pas venus nous voir, en tout cas.
Et t'as pas les relations de voisinage, je sais pas. En général, quand on construit un pavillon, on invite ses voisins et ses voisines et on leur offre quelque chose à boire et à manger.
On a nos voisins et nos voisines, en tout cas proches, qui viennent régulièrement et qui sont des clients fidèles. Après, on n'a pas eu d'échange plus que ça avec la guinguette de Tours-sur-Loire.
Et t'as pas cherché.
Et on n'a pas cherché à aller les voir non plus, non. Effectivement.
Les prochaines dates qu'il faut retenir pour le comptoir des arts, c'est quoi ?
On a un beau partenariat là, avec les rencontres de l'Ogre qui vont être là donc, la semaine prochaine, le 6 juin. On va avoir d'autres temps forts. Hein. Après, nous, ça va être la fête de la musique, les journées du patrimoine. On est en train de construire des beaux projets. À savoir que nous, pour l'instant, on est là jusqu'au 19 octobre, mais qu'on réfléchit quand même déjà à des événements plutôt ponctuels sur la partie hivernale.
C'est-à-dire que le comptoir sera fermé cet hiver ?
Pour l'instant.
Pour l'instant, d'accord.
Suspense, surprise.
Avec une réouverture après, c'est vraiment sûr que le comptoir des arts, les courants d'art s'arrêtent en mai 2026 ?
C'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut donner un cadre de départ et puis après, on avait tous besoin de savoir comment ça se passe, si financièrement c'est tenable aussi, hein, parce que voilà, il faut que ça puisse tenir financièrement. L'idée, c'est pas qu'on se mette tous en difficulté.
Oui, il faut que chacun s'y retrouve, mais je pense que si ça fonctionne comme on le souhaite, Il n'y a pas de raison. Oui, c'est un premier jet, quoi. Une première année.
Et toi, Pauline, on n'a pas parlé de ton stand, parce qu'il faudrait peut-être en faire un petit peu de pub quand même.
Avec plaisir, avec plaisir.
Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Moi, je vous propose à l'atelier des possibles. Comme son nom l'indique, tout est possible. Je fais essentiellement des luminaires, un peu de déco-récup. Moi, l'objectif, c'est que tout ce que vous pouvez avoir chez vous en souvenir de mamie, bon, c'est bien, mais ça pourrait aussi revivre en lampe. Pourquoi pas? Je fais beaucoup de sur-mesure de manière à ce que vraiment ça vous corresponde et que ça continue sa vie auprès de vous, mais surtout on le sort du grenier. Donc voilà, n'ayez honte de rien si vous voulez m'amener le petit truc que vous avez gardé, vous savez pas trop pourquoi, mais ça vous plaisait.
On peut venir te voir pour t'amener des choses.
Complètement, complètement.
Au lieu d'aller à la déchetterie, ben on
dit non, allez, non, 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 mon Dieu, non, je ne veux plus entendre. C'est pas ça, pas la déchetterie. Non, non, il y a plein de choses qui peuvent revivre et puis c'est vraiment sympa, enfin je me permets, d'avoir quelque chose qui correspond à votre vie et de l'avoir près de vous au quotidien. C'est plus sympa que dans le placard.
Les artistes et artisans qui sont retenus pour les courants d'art, ils doivent payer une patente ou quelque chose?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, oui, ça rémunère aussi bien l'association que le travail de Clément et Violaine et de tous les autres. Oui, oui, il y a effectivement un petit loyer, un pourcentage sur nos ventes. Et puis, on fait quelques permanences au minimum 2 jours par mois. Et puis, de toute façon, c'est quand même très sympa de croiser les clients. Et justement, ça me permet d'avoir ce retour sur les clients qui sont les visiteurs, qui sont vraiment ravi de venir, aussi bien pour ce qu'il y a, pour le contenu que le contenant.
La programmation musicale, enfin culturelle, enfin le théâtre, musique et tout ça, elle est faite à partir de quel budget? C'est sur les bénéfices du bar ou les courants d'art?
Les courants d'art ne participent pas à la programmation. On est totalement en indépendance, donc effectivement, c'est les recettes du bar et de la restauration qui nous permettent de programmer. Donc, faut pas hésiter à venir manger, à boire. C'est ce qui nous permet d'avoir des jolis spectacles derrière. Et puis, nous, dans notre prévisionnel, on s'est fait un budget mensuel qui est de 5 000 €. Voilà, en toute transparence. Après, c'est à nous de jouer en fonction d'avoir des propositions moins coûteuses, d'autres plus coûteuses. Voilà, c'est à nous de jouer avec ça.
D'accord. Et c'est toi la responsable de cette partie-là?
Avec Lulu qui est derrière. D'accord. Et voilà, on est deux dessus parce que ça permet d'avoir. Moi, je dis toujours, deux cerveaux valent mieux qu'un. Et ça permet d'avoir des propositions artistiques complètement différentes. Là, les deux concerts qu'on a pu voir, c'était des propositions de Lucie que je ne connaissais pas. Et c'était super chouette. J'ai été très contente de découvrir ça aussi.
Bon. Eh ben, très bien. Merci, Pauline.
Merci.
Merci, Amandine, pour cette présentation des courants d'art et du comptoir des arts. Voilà. Amandine, vas-y, tu as le droit de parler.
Je voudrais juste rajouter une petite chose qui, effectivement, même s'il y a deux entités... dans la partie structurelle et organisationnelle qui est voilà, les courants d'art et le comptoir des arts, je trouve que dans le fonctionnement du projet on arrive vraiment maintenant à une seule entité, on travaille tous ensemble, on se croise régulièrement, voilà, et du coup c'est super chouette, pourrait presque y avoir une autre entité qui s'appellerait les courants de je sais pas quoi, le courant des comptoirs ou, enfin voilà, mais voilà, c'est juste pour signifier ça.
D'accord. Tu étais en train de dire que tu vas bientôt déménager à Beaulieu pour pouvoir...
Alors, ça fait un peu loin de chez moi, mais j'ai été découvrir le site que je ne connaissais pas et qui est hyper chouette. Et j'invite aussi les gens à aller découvrir ce site. D'accord. À Beaulieu-les-Loges.
Vous, vous avez aimé les courants d'art à la Chambre de commerce, allez à Beaulieu-les-Loges.
Exactement. Bon.
Très bien. Merci à toutes les deux. Et on va se faire, parce que c'est l'heure de la pause, Fab Caro. Voilà. Et on va retrouver l'inoubliable Pascal qui est aujourd'hui à Piscine.
Nicolas a l'air de galérer dans le grand bassin, tu veux pas y aller?
Attends, c'est bon, j'étais avec lui pendant 1 heure, j'en peux plus là.
Tu pourrais faire un effort.
Bah et toi? C'est pas moi qui ai proposé d'aller à la piscine, je te rappelle.
Tu préférais qu'il passe son après-midi devant des jeux vidéo?
Bah pourquoi pas.
Voilà, résultat, il se noie. Tu es content?
C'était ton idée.
Voilà, et si on se faisait une pause musicale, une pause au quart de tour bien sûr, car ça commence bientôt. Et on va écouter Bébé Jack qui sera sous le Grand Chap le vendredi 13. Un vendredi 13 qui risque bien d'être complet comme l'année dernière. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, Bébé Jack sur Radio Béton.
« Ça lance pas juste pour moi, c'est pour le gamin seul qui me soignait dans le couloir. Cœur trop pur pour être jeté en fosse. C'était illusoire, j'étais dans le faux. Est-ce que je dois m'en vouloir d'y croire? Et toi comment tu te sens ça, dis quoi? T'as sans doute personne à qui le dire. Elle ressemble à Kill Bill. À part depuis le big deal, énergie big dick. Assume des heures qui étaient même pas miennes. C'est ma faute, j'en ai commis mais j'étais même pas né. Mais j'en ai commis d'autres, tu sais c'est passé vite. J'aurais dû dire stop, j'en ai assez vu. Souvenir dans le papier bulle. Parce que c'est trop fragile. Blesser un homme c'est le seul moyen pour qu'il soit pas trop fragile. Que Dieu me protège. Le diable m'envoie un ange. Je l'envoie un an, merci pour toute ta force. Je t'ai offert toute la flore. Je combattu toute la faune. Merci pour toute ta force. Je t'ai offert toute la flore. Je combattu toute la faune. Hey. Je dois pas le dire mais je crois que j'ai mal. Je crois peut-être parce que j'ai le tour. Je viendrai pas de chez cher. Largue-moi une dernière fois avant de partir. Et forcément l'enfer. Avant le paradis, je suis bel et bien en vie. C'est pour ça que je crois que je m'étouffe. J'ai barré des faces trop belles pour qu'elles vivent. Il me reste la peur, puis tu mets tout. Je meurs à pas mettre que le doigt, mais juste le chiffre. Si on survit à tout ça, on se revoit à la Toussaint. On a niqué la petite vie, toute simple. Celle qui me faisait tant plaisir, tu te souviens pas de moi. Je te sens toute balayée sur un tatami entre Courbevoie et Andrézy. Je prépare le mental, je suis pas là, je poche, je soulève les montagnes. Surveille mon temps. C'est pas ta faute, c'est juste mon tort. Tu te souviens pas de moi. Je prépare le mental. Les montagnes, surveille les montants. C'est pas ta faute, c'est juste mon tort. B, c'est pas un rock, c'est juste mon torse. C'est pas ta faute, c'est juste mon tort. Pétasse, c'est pas un rock, c'est juste mon tort. C'est juste mon torse. Juste mon tort. Pétasse. C'est juste mon tort. C'est pas ta faute, c'est juste mon tort. Force. Je t'ai offert toute la flore. Je combattu toute la faune. Hein? C'est juste mon torse. C'est juste mon tort. Pygmalion.
Voilà Daniel, bah Daniel c'est à toi de prendre le mic parce que tu vas nous faire une chronique de BD, mais cette fois-ci tu flirtes avec la fantasy et ça c'est une grande nouveauté en tout cas pour moi.
Les Ogres du tome 1, petit, édition Soleil, et c'est pas cher. Les éditions Soleil, jusqu'à présent, nous ont plutôt habitués à produire des nombreuses bandes dessinées au parfum d'heroic fantasy, avec des orques, des gobelins, des samouraïs, enfin d'autres créatures qu'on ne connaît pas non plus. Dans des formats classiques, mais là, avec la collection Ogre Dieu, on entre dans le high level, le haut niveau. C'est une série, rassurons notre banquier, les auteurs se sont interdits de clore chaque volume par un suspense. Les quatre tomes sont indépendants les uns des autres, et chaque livre est un portrait d'un personnage à un moment de sa vie. C'est toute l'histoire d'une famille et de ses membres qui nous est contée. Héritage, coutume, tiraillement, un superbe récit gothique autour du déterminisme familial, un univers en déclin, un parfum crépusculaire de la lignée, et l'architecture donne l'échelle, et c'est un élément central. Petit est le fils du roi Ogre, à peine plus grand qu'un humain. Il porte sur lui le signe de la dégénérescence familiale qui rend chaque génération plus petite que la précédente, à force de consanguinité. Son père, lui, veut sa mort, mais sa mère, l'ogresse, voit en lui la possibilité d'une régénération de la famille puisqu'il pourrait s'accoupler à une humaine, telle que le fit jadis, le fondateur de la lignée. Elle le confie alors à la tante d'Esdée, la plus ancienne d'entre eux qui, déshonorée en raison de son amour pour les humains, vit recluse dans une partie de l'immense château. Enfin, elle vit recluse, mais elle fait 23 mètres de haut. Seulement voilà, contrairement au souhait de sa mère, elle tentera d'élever Petit à l'inverse des mœurs familiales, et tiraillé entre les pulsions violentes dont il a hérité et l'éducation humaniste qu'il a reçue de Desdé, Petit trouvera-t-il sa place et survivra-t-il à l'appétit vorace de la famille ? Oulala ! Le récit est construit sur deux axes narratifs. La bande dessinée raconte l'histoire de Petit, tandis que les textes illustrés se concentrent sur la vie des différents souverains depuis le fondateur. Attention, c'est un chef-d'œuvre. Ça ressemble à un conte de fées, mais c'est un conte d'ogre. Un nouveau genre que je viens d'inventer. Enfin non, c'est pas vraiment moi finalement. Un conte de toute beauté, que ce soit sur le trait, le format, la mise en couleur, avec des niveaux de gris extraordinaires, des noirs profonds, chatoyants et des aplats dorés de toute magnificence, avec un joli gaufrage sur la couverture. Magnifique. Le dessinateur, Bertrand Gatignol, avait déjà commis le film d'animation, il y a très longtemps, qui s'appelait Renaissance. Sorti en BD, c'est un univers post-quelque chose qui était magnifique. Post-apocalyptique, on va dire. Non, on peut pas le lire couché dans son lit, c'est impossible. D'abord, il est grand, et puis surtout, il est lourd. Et rien que les premiers dessins, on s'y arrête bien 5 minutes pour voir tous les détails. C'est magnifique. Et le format est dantesque à la mesure des personnages qui sont des ogres. Mais ça, j'ai déjà dit. Donc, premier truc évident, les deux fils de l'ogresse, les pendants des sœurs de Cendrillon, ils sont moches, bêtes, méchants et ils veulent manger leur frère, le petit canard. C'est donc l'histoire d'une anomalie, d'une altérité, c'est-à-dire celui qui n'est pas comme les autres. À savoir, il a une taille normale, il n'est pas un homme, il n'est pas un ogre, il est entre les deux. Je sais que c'est facile, mais allez dévorer Petit de la collection Ogre Dieu, c'est le tome numéro 1 aux éditions Soleil et c'est pas très très cher, c'est un très bon rapport qualité-prix.
Bah, je dois grandir. Quand j'étais petit, j'aimais bien les contes de fées.
C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, Marcel.
Voilà, et eh bien, après Daniel, eh bien, bienvenue à Nadia qui va nous faire sa chronique d'un livre édité chez Guy Master. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il nous fait une chronique sur Guy Master, hein. Et aujourd'hui, Nadia, bah, tu nous emmènes en Arkansas.
Lily, une gamine épatante, nous entraîne dans cette histoire qui s'appelle Rattrape-le de John Hickson aux éditions Totem Gallmeister. C'est après son amoureux que court Lily, enfin disons celui qui l'a mise enceinte. Car au fond d'elle-même, Lily sait bien qu'elle n'est plus amoureuse de Peter. Il devait se marier la semaine dernière, mais il a disparu. Les mauvaises langues disent qu'il s'est fait la malle pour échapper au mariage. Et pour jaser, ça jase. Ici, c'est l'Arkansas, l'Amérique rurale. Lily n'est pas majeure et c'est la fille du pasteur pentecôtiste. Ses parents se soucient du condyraton et des répercussions dans le temple. Et ils ont raison. Car sœur Cynthia, la mère de Peter, qui fait partie des pentecôtistes rigoristes, exacerbe les tensions par ses propos malveillants à l'égard de Lily. Et elle va avoir de quoi raconter. Car Lily est allée à la police pour déclarer la disparition de Peter. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Lily s'est aussi introduite chez elle pour éventuellement trouver un indice dans les affaires de Peter. Au moment où elle allait partir, deux gars pas du tout recommandables ont fait irruption et ont agressé Lily. Loin de faire peur, cet événement convainc Lily qu'il est arrivé quelque chose à Peter. Elle poursuit sa recherche sur le lieu de travail de Peter qui était réceptionniste dans un hôtel. Elle apprend qu'il est parti soudainement et à force d'obstination, oblige son collègue Alain à lui divulguer à quelles activités peu catholiques se livrent ici les deux malfrats. Alain ne peut pas résister à la franchise et à la sincérité de Lily. En fait, il se sent coupable d'avoir été témoin d'actes illicites et de n'avoir rien dit, rien fait pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Alors ils vont faire équipe. Imaginez le duo, un homosexuel humaniste tout en rondeur et une jeune pentecôtiste avec sa jupe longue en jean, sa tresse tombant à mi-cuisse et son gros ventre. Eh bien moi non plus, je n'ai pas résisté à l'obstination, la détermination et la droiture de Lily, et j'ai dévoré ce roman noir, vraiment très noir, ponctué de ci, de là, de saillies humoristiques de nos deux héros. Car leur alliance ne résulte pas du rejet dont ils sont chacun l'objet, mais d'un redoutable esprit critique qui leur permet de dépasser les obstacles et incidemment de s'émanciper de leurs conditions. On apprend beaucoup sur l'Amérique rurale dans ce roman, la misère sociale et culturelle, le poids des conventions, de la religion, ici particulièrement le fonctionnement et les règles de la communauté pentecôtiste. Ce livre est un page-turner et vous aurez compris que j'ai adoré Rattrape-le de Jack Hickson aux éditions Totem Gallmeister.
Merci Nadia pour cette balade en Arkansas. Voilà, et ben Remix, je pense bien que c'est ton tour, hein, et tu viens nous parler de BD.
Eh oui, je vais vous parler de Candy Superstar et les muses du pop. Les dessins et les couleurs sont de Livio Bernardo, le scénario de Claire Translet, et l'éditeur c'est chez Delcourt. C'est une bio-romancée sur la première actrice trans américaine, Candy Darling, dont vous avez tous entendu parler. Ben oui, on parle d'elle dans la belle chanson Candy 16, je l'ai bien prononcée là, dans l'album Vue du Velvet Underground, et surtout c'est l'un des personnages du fameux Take on the Wild Side de Lou Reed de l'album Transformer. Candy Darling, elle fait ses premiers pas d'actrice dans les pièces de théâtre expérimental, mais sa carrière prend véritablement son envol après être passée par la factory d'Andy Warhol. Cette chronique est un voyage à travers l'underground artistique new-yorkais des années 70, mais pas que cela. Ça parle de sororité notamment, et on y découvre les combats vécus par la communauté trans pour avoir un début de reconnaissance de droit dans une Amérique au puritanisme exacerbé. Ce roman graphique est sublimé par un dessin et des couleurs qui collent parfaitement à l'histoire. Au fil des pages, on apprend plein de choses sur les joies, les difficultés du cheminement lié à la transition de genre. Ce livre, c'est pas qu'une BD ou un roman graphique réussi, c'est un livre que j'ai trouvé militant, avec des vertus pédagogiques, que j'ai vraiment aimé lire, que j'ai vraiment envie de relire. Et surtout, il y a un truc que je vous conseille, c'est d'aller sur l'Instagram de Claire Translet, qui est une dessinatrice trans, et qui a créé un petit bouquin sur la parentalité, expliquer aux enfants. Elle a rencontré ce problème-là, elle ne savait pas comment expliquer à son enfant qu'elle était trans, et elle lui a expliqué au travers d'une BD, et c'est quelque chose d'assez... je pense qu'il peut intéresser plein de gens. Voilà, c'était donc Candy, Superstar et les muses de la pop, et avec un Andy Warhol qui ressemble étrangement à Karl Lagerfeld au niveau du dessin, enfin vous verrez.
Et Rémi qui nous a calé une petite pause musicale spéciale Lou Reed.
Oui, parce que sur... Il y a le fameux, j'en parlais tout à l'heure, le Take on the Wild Side. Walk on the Wild Side. Mais oui, parce que j'ai fait une faute de frappe sur mon... 1h du matin, tout ça, une vie difficile, une enfance problématique. Et là-dessus, ben, le Walk on the Wild Side, il y a Candy qui est dedans.
Eh bien, on écoute Lou Reed.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA.
plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Bien, accrochez-vous, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Mais qu'est-ce qui va commencer? Bah, c'est la croix d'Olivier, hein, qui a réussi, tour de force, à venir à bout des 96 pages de La Danseuse de Patrick Modiano.
Oui, 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 tout à fait. La Danseuse de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014. Alors, pour ne rien vous cacher, je suis un peu embarrassé parce que ma précédente chronique consacrée au Scum Manifesto de Valérie Solanas m'a valu un véritable tombereau de réactions indignées. Enfin, tombereau, c'est peut-être exagéré. Disons pas mal de réactions indignées. Ou pour être plus précis, quelques réactions indignées. Bon, ok, une réaction indignée de ma fille aînée qui m'a chopé à la sortie des Water pour me signaler qu'elle doutait de ma légitimité à évoquer l'œuvre de Valérie Solanas en tant que, je la cite, « vieux mâle cisgenre blanc bedonnant de plus de 50 ans, hétérosexuel et middle class ». Alors vieux, admettons, blanc pourquoi pas, mais bedonnant franchement c'est pas cool. Enfin bref. Donc La Danseuse de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014. Le problème quand même avec les enfants, c'est que tu passes des années à leur inculquer des valeurs progressistes, à leur apprendre à se défier de toute autorité quelle qu'elle soit, et tu ne te rends pas compte que la remise en cause du patriarcat, bon bah c'est très bien, hein, c'est salutaire et tout, mais il y a un moment où ça va forcément se retourner contre toi, étant donné qu'à la maison, le seul mâle cisgenre hétérosexuel, presque middle class, mais pas encore tout à fait bedonnant, bah c'était moi. Si ce n'est pas ce qu'on appelle tendre le bâton pour se faire battre, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Mais revenons à la danseuse de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014. Où je suis embarrassé, c'est que je ne voudrais pas que certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, viennent me reprocher après coup de ne pas être non plus légitime pour parler de ce livre-là, vu que moi, je n'en ai jamais eu de prix Nobel de littérature. C'est pas parce que j'en voulais pas, hein, notez bien. Mais il faut savoir que pour recevoir ce genre de distinction, il est nécessaire d'avoir rendu service à l'humanité par une œuvre littéraire qui, selon le testament du chimiste suédois Alfred Nobel, a fait la preuve d'un puissant idéal. Ça veut dire qu'à la base, il faut à minima avoir construit une œuvre, ce qui implique d'avoir pondu plusieurs bouquins, ce qui suppose de savoir écrire. Un qui sait écrire, c'est Patrick Modiano, l'auteur de La danseuse, dont je vais finir par vous dire un mot ou deux. Parce que bon, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais il faut quand même que je vous dise que moi aussi, quand j'étais jeune et ambitieux, je me suis essayé à l'écriture. Et vers 7 ou 8 ans, j'avais même élaboré une technique de rédaction qu'il n'est pas abusif de qualifier de révolutionnaire, à mi-chemin entre Loulipo et Dada, qui consistait à remplacer les substantifs de n'importe quel texte par prout. Comment ça prout, allez-vous me demander? Prout comme permutation rhétorique par oblitération de l'uniformité textuelle? Non, prout comme un prout, cette émanation gazeuse résultant de la fermentation de nutriments décomposés sous l'effet du microbiote intestinal, que les amateuristes de métaphores désopilantes décrivent parfois comme un vent qui, passant entre deux montagnes, annonce l'imminente arrivée du général Caca. Alors le général Caca n'est pas un des personnages de La danseuse de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014. Juste pour en finir avec cette histoire de prout, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais je vous garantis que le résultat était tout à la fois comique en diable et redoutablement disruptif du strict point de vue de l'orthodoxie littéraire, d'autant plus que la méthode pouvait s'appliquer à n'importe quelle forme d'écriture. L'élocution proverbiale, quand le prout n'est pas là, les proutes dansent. Les fables, Maître Prout sur son prout perché, tenait dans son prout un prout. Les poèmes, pour le prout amoureux de proutes et de proutes, le prout est égal à son vaste prout. Enfin, vous avez compris l'idée ou vous voulez que je continue? Ça va. Malheureusement, cette admirable démarche créatrice s'interrompit d'elle-même bien avant que j'aie pu composer une œuvre qui m'aurait permis de prétendre au Nobel. Et c'est fort dommage, car je ne serais pas aujourd'hui à m'interroger devant vous sur le droit qu'il m'est donné de chroniquer La danseuse de Patrick Modiano et de vous partager ma crainte de me faire, encore une fois, rentrer dans l'art à la sortie des Water par des apprentis commissaires du peuple qui feraient mieux de ranger leur chambre au lieu de donner des leçons d'hygiène politique à des petits gros qui ne leur ont rien demandé. Alors je sais ce que vous allez me dire, que je suis de mauvaise foi et que ce n'est pas la même chose de parler de Patrick Modiano que de Valérie Solanas. Je suis bien d'accord que la frontière entre parler d'eux et parler à la place d'eux est aussi mince qu'une feuille de papier cul. Et à partir de là, je vois clairement en quoi il peut sembler déplacé pour un gus comme moi de parler d'un bouquin écrit par une personne qui, du fait de son genre, de son statut social, de sa fragilité psychologique, se trouve d'ores et déjà soumise à un certain nombre de dictats visant à entraver, sinon altérer sa parole. Je comprends bien tout ça, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'à force de vouloir tout le temps mettre les gens dans des cases en décidant, même avec les meilleures intentions du monde, qui a le droit d'être à tel ou tel endroit et qui peut éventuellement prétendre s'installer ici ou là, on finit par frôler ce qu'on a coutume d'appeler le délit de sale gueule. Et c'est un peu con-con quand on veut bien prendre la peine d'y réfléchir deux minutes. Parce qu'à un moment ou à un autre, que l'on soit prix Nobel de littérature, égérie féministe ou obscur chroniqueur sur une radio locale, nous finirons toutes et tous par nous raidir et refroidir et nous décomposer petit à petit. Et nos nerfs et nos os et aussi la molle matière qui forme notre cerveau, tout comme la bouée adipeuse qui nous vaut parfois le qualificatif de bedonnant, finiront par se déliter tout à fait, par se disloquer, par se liquéfier, par se vaporiser jusqu'à ne plus former qu'une sorte d'insaisissable nuée gazeuse, simple et dérisoire petit prout s'élançant vers le ciel pour annoncer l'arrivée non plus du général Caca, mais celle d'un lent effacement de notre éphémère existence. Est-ce que cela ne devrait pas nous inciter à attendre cette inexorable perspective en prenant soin de ne pas trop emmerder nos proches et nos voisins, ni à la sortie des Water, ni nulle part ailleurs? Bon, du coup, j'ai plus trop le temps de vous parler de La danseuse, mais lisez-le, c'est vraiment chouette et plus que ça encore, même si Patrick Modiano, tout prix Nobel de littérature 2014 qu'il est, trouve le moyen de ne pas y utiliser une seule fois le mot prout. La danseuse de Patrick Modiano est éditée chez Folio.
Bon, encore un tour de force de Olivier qui a réussi à ne pas nous parler de cette danseuse. Eh bien, qui est-ce qui va nous parler d'amour maintenant? Eh bien, forcément, c'est Odile qui s'y colle avec Les amants du Lutétien.
Les amants du Lutétia d'Émilie Frèche, paru chez Point. Dans ce 16e roman, Émilie Frèche nous conte une histoire émouvante, déchirante, extrêmement bien écrite, dont l'un des thèmes est une réflexion sur la fin de vie. La narratrice est Éléonore. Un jour, elle reçoit un coup de fil de la police. Ses parents sont morts. Mais à 85 et 87 ans, ils étaient en parfaite santé. Ont-ils eu un accident? Non. Ils se sont suicidés dans une chambre du Lutetia, le grand hôtel parisien réquisitionné en 45 pour le retour des déportés juifs. Ezra et Maud, ses parents donc, étaient juifs. Ils se sont rencontrés très jeunes, ont créé une agence de pub au développement fulgurant dans les années 70-80. Et Léonore les décrit comme des personnages fantasques et romanesques, qui côtoient des célébrités de la mode, de la culture. Ils ont dédié leur vie à leur boîte et sont souvent absents du cocon familial. Ils ont vécu à 1000% dans la richesse ostentatoire, les fêtes, les excès. Et Léonore, elle, finalement, s'est toujours trouvée en trop, une erreur de parcours dans leur choix de vie. Et voilà qu'en plus, sans prévenir, sans la prévenir, ils disparaissent. Une fois de plus, de manière presque triomphale, leur disparition sera relayée par toute la presse, comme un dernier coup de pub. Ainsi, leur double suicide devait être le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la fin de vie dans la dignité. Il faut bien faire évoluer les mentalités pour ne pas être obligé de se suicider avec un sachet plastique sur la tête comme eux ont été réduits à le faire. Mais une fois de plus, Éléonore se retrouve en dehors de l'histoire qui se déroule. Elle n'était au courant de rien, juste mise devant le fait accompli. Et le pire, c'est que tout était pourtant prévu depuis longtemps, par leur homme de confiance, conseiller financier, un certain Duval, dont elle ignorait même l'existence. Elle se sent étrangère à sa propre famille. Elle n'était pas dans le secret, n'avait pas les clés de l'appart, contrairement à ce Duval qui a déjà vidé cet appart du superflu. Tout a été étudié au détail près. Leur mort, leurs funérailles, elle n'aura donc pas de problème de succession. Par un tour de passe-passe que seuls les très riches connaissent, elle n'aura rien à payer. D'ailleurs, la belle maison de vacances, les Bulles dans le Midi, ne lui reviendra pas. Comme ça, elle en sera juste la locataire. Habile, non ? Cette belle maison aux bulles blanches finalement représente le mieux l'esprit de cette famille. En étant une maison refuge d'été, elle est très particulière avec sa forme spéciale, comme les parents. Elle a été construite par l'architecte Jacques Quelle, lui aussi un avant-gardiste. Pour le coup, Éléonore se sent vraiment dépossédée de tout. Elle vit ce double suicide comme une déflagration. Elle entre en conflit avec son fils. Elle voit un psy et repense la famille, ses parents et sa place à elle dans leur vie. Elle se sent seule, privée même de l'accompagnement de fin de vie attendu avec ses propres parents. La jeune femme enquête alors sur les autres couples ayant réalisé des pactes suicidaires. Ils sont reproduits dans le roman, des personnages célèbres comme Zweig ou Hitler. Tout au long du roman, sa réflexion s'étoffe. Y a-t-il une place pour les gens vulnérables? Et finalement, si ce geste égoïste était un geste d'amour? Le couple flamboyant d'Ezra et Maud est fascinant à suivre. Franchement, Émilie Frèche nous plonge avec moult descriptions précises dans leur mode de vie peu commun. C'est très agréable de vivre avec eux la folie du début des années 80, quand on est friqué et connu. Le tour de force d'Émilie est de nous faire croire qu'elle est Éléonore, cette jeune femme. Comme dans beaucoup de ses romans, il y a beaucoup de faits qui rappellent la propre vie de l'auteur. Mais cette fois-ci, l'intrigue ne vient pas de sa propre famille. Elle s'est inspirée du double suicide des amants du Lutetia, un couple d'intellectuels, les époux Caz, morts en 2013. Si vous voulez une lecture addictive qui donne à réfléchir, lisez « Les amants du Lutetia » d'Émilie Frèche, paru chez Point.
Voilà, troisième et dernière pause musicale, toujours au quart, hein, toujours le vendredi 13. Mais cette fois, on va se retrouver sous le chapiteau de l'Asmala et d'Oden avec Night of Mandala.
I'm writing a poem about a dream I had. Perfect blossom is a rare thing. You could spend your life looking for it. And it would not be a wasted life.
If it would fit with tigers.
The tiger's eyes are like my poem. But he comes from across a deep and troubled sea.
Respect my enemies.
That is the way of the moon.
Respect my enemies.
Bushido.
Fearless. I'm gonna be free. Break down. Teacher, master, don't me strive.
That's all I have in my mind.
That is the way of the warrior.
Fearless. I'm gonna be free. Break down.
Les Knights of Mandala qui seront sous le chapiteau de la Smala et d'ODN le vendredi 13 juin. Au quart de tour, c'est bientôt. Au quart de tour, c'est bientôt. On commence à être à fond dedans, noyé dedans. Mais il nous reste encore. Il nous reste encore quoi ? Il nous reste encore le clou de l'émission, l'inénarrable feuilleton radiophonique, la bourboule parano, dont on vous propose aujourd'hui le 18e épisode.
Vous connaissez la bourboule ? Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La bourboule parano. Le feuilleton made in béton.
Dans l'épisode précédent, notre valeureuse équipe vous a narré un conte de fées à la sauce bourboule parano, c'est-à-dire un rien foutraque. Mais qu'importe le contenu tant qu'on a le talent. C'était hyper bien interprété. Moi je serais vous, je l'écouterai à nouveau. Car on ne sait pas ce que donnera le prochain épisode. Ça risque de puer un peu, car la scène se passe dans les waters de la Pétaudière. Enfin, c'est ce que je croyais.
Quelque part dans la banlieue nord de la galaxie de Blosglux.
Entrez !
Vous vouliez me voir, patron ?
Ah, Zorglub, entrez ! Je viens d'avoir la base ZX AO 679-00000000001 et ils me disent que le sas de téléportation intersidérale n'a toujours pas été activé. Vous avez bien programmé les coordonnées spatio-temporelles comme je vous l'avais demandé ?
Oui, patron. J'ai encore la note de service que vous m'avez fait passer.
Faites voir alors. Un sponglo, trois bonnes trucs pas trop mûrs. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Ah pardon, c'est ma liste de courses, désolé. C'est parce que ma femme m'a demandé de passer à la supérette en rentrant. Elle veut faire un gratin de splogluc ce soir. Et il lui fallait...
Ouais, bon, ça m'intéresse pas. Donnez-moi la note de service.
Voilà.
Ok, donc coordonnées 45 6ZO 823 XU, point de dérivation électrostatique WC3N45. Ça m'a l'air correct.
C'est ce que j'ai saisi en tout cas.
Zone d'émission Lab Urgul 497.
Ah non.
Quoi non?
Ce n'est pas Lab Ourgoul 497, c'est Lab Ourboul 497.
Oh, pas du tout, c'est bien écrit Lab Ourgoul 497.
Mais non, c'est un B là, pas un G.
Vous ne savez pas lire, mon petit vieux. C'est moi qui l'ai écrit, cette note de service. Je vois bien que c'est un G.
Je suis désolé, patron, mais ça ressemble quand même plutôt à un B.
Non mais dites donc, ça va bien. Vous n'avez qu'à dire que j'écris mal.
Pas du tout, patron. Mais franchement, vos G, ils ressemblent à des B.
Ah ouais? Et une mise à pied conservatoire pour insolence envers un supérieur hiérarchique, ça ressemble à quoi? En attendant, avec vos conneries, le sas de téléportation de la base ZXAO 679-00000001 n'est toujours pas activé. Et en plus, la bourboule, c'est où ça encore?
Je ne sais pas, moi, je suis programmateur, pas géographe.
Excusez-moi, je cherche la sortie des toilettes, vous ne savez pas où c'est par hasard?
Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous?
J'étais dans les water de la pétaudière parce que le birlou, c'est très bon, hein, je dis pas le contraire, ne vous vexez pas. Mais moi, la châtaigne, ça me réussit pas trop au niveau du transit intestinal. Enfin bref, je suis au water, je fais ce que j'ai à faire, vous voyez ce que je veux dire, hein, je vais pas vous faire un dessin. Et au moment de tirer la chasse, bing!
Quoi, bing?
Bah, bing, ça fait un grand bing. D'habitude, ça fait plutôt, je sais pas, splaouch ou frouch. Enfin, je n'imite pas très bien la chasse d'eau, mais vous avez compris l'idée. Mais là, non, ça fait bing. Et depuis, impossible de retrouver la sortie.
Bravo, Jean-Glub.
Et allez, ça va être encore de ma faute.
Si vous saviez faire la différence entre un G et un B, on n'en serait pas là.
Bon, je vais pas vous déranger plus longtemps. Hein.
Jean-Glub, chope-le avant qu'il ne se barre.
Non, vous dérangez pas. Je vais essayer de trouver par moi-même. Je vous laisse à votre soirée déguisée.
Viens par là, mon bonhomme.
Mais lâchez-moi, je ne vous permets
allez,
pas.
Allez, ne m'oblige pas à t'envoyer un coup de sbroult dans les schnockoïtes.
Mais rien du tout, vous n'allez rien m'envoyer dans les schtonkotes. Et enlevez vos tentacules de mon pantalon, vous allez tout saloper. Putain, mais déconnez pas, c'est le pantalon que portait Patrick Hernandez quand il a composé Born to be Alive.
Pendant ce temps-là, dans les toilettes de la pétaudière.
Le presse!
Pourquoi tu cries en la cuvette? Tu crois qu'il est tombé dans le trou?
Bah, j'en sais rien, moi, il est nulle part.
Je l'avais dit qu'il ne fallait pas aller au water.
Tu l'avais dit, c'est très bien, mais condamner la porte, ça aurait pas été encore mieux, non?
Ben ouais, mais il faut bien que les gens puissent faire popo. En plus, ce ne sont pas les toilettes qui posent problème, c'est la chasse.
Alors enlevez la chaîne dans ce cas-là.
C'est Georges qui devait s'en occuper, mais la clé 12 a disparu. Moi, je n'arrête pas de le dire, qu'il faut ranger les outils, mais évidemment, tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Et le résultat, c'est quoi? C'est que quand t'as besoin d'une clé 12, bah tu la retrouves pas.
Oui bon, on s'en fout de tes histoires de clé 12, hein. Moi je vais chercher le prêtre. Hein. Le connaissant, il ne retrouvera jamais son chemin tout seul. Hein.
Attends, la patronne, qu'est-ce que tu fais là?
Bah, en 30 ans de radio, je n'ai jamais abandonné un gars sur le terrain, tu m'entends? Jamais. Alors ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
Je t'accompagne.
Non mais que... Arrête, tu vas me faire tomber!
Vas-y, tire la chasse. Bah,
tu vois bien qu'il n'y a pas assez de place pour deux.
Tire la chasse, je te dis!
Lâchez-moi, misérable céphalopode galactique de mes fesses! Oh putain, si je m'énerve, je peux te dire que tu vas le sentir passer. Tu vas pleurer ta mère si t'en as une. Putain, mais vas-y, laisse-moi au moins une main libre. C'est super pas équitable, sinon.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
La patronne! Quelle bonne surprise! Et Chicken? Pourquoi vous avez un seul corps avec deux têtes?
Il y a eu, comme qui dirait, un petit mélange au moment de la téléportation.
Oh putain, ça fout carrément les jetons.
Mais ce n'est pas possible, c'est un vrai défilé. Zorglub, attrape-les!
Vous en avez de bonnes, patron. J'ai déjà du mal avec le premier, il est plus glissant qu'une gloupiote de la mer du Sprout. C'est son falzar, là, les ventouses n'adhèrent pas.
Mais c'est du cuir de caribou, espèce de bousin intergalactique.
Ok, j'ai compris, je m'occupe de l'autre.
Touche pas à la patronne, salopard!
T'inquiète, je sais me défendre, hein. J'étais championne de taekwondo quand j'étais gosse.
De taekwondo?
De taekwondo!
Connais pas.
Ça veut dire la voix des pieds et des poings en coréen. Alors je peux te dire que tu vas déguster, mon con, hein.
Bah c'est pas de bol, parce que moi j'étais champion de Zurbuch, hein, quand j'étais gosse. Ça veut dire la voix de mon tentacule dans ton vinaigroin, en saturnien.
Quoi? Les habitants sur Saturne?
Évidemment, pauvre larbe terrestre égocentrique. Si vous passiez un peu moins de temps à vous reliquer le nombril et à vous foutre sur la gueule entre vous, vous le sauriez.
Allez, laisse-toi faire bien gentiment ma cocotte.
Enlève immédiatement cette chose flasque et gluante de mon épaule. Je te le dirai pas deux fois. Bon sang, ce bourg de flamby est plus mou qu'une méduse sous acide et plus baveux qu'un escargot épileptique en pleine crise de pitalisme.
De?
Pitalisme!
C'est quoi le pitalisme?
C'est quand tu as une sécrétion surabondante de salive.
Ah oui, tiens, je connaissais pas le terme.
Ouais, si, c'est un peu comme l'hypercialorée ou l'hypercialie, si tu veux.
Dites, ça vous dérange pas trop qu'on vous massacre pendant que vous discutez entre vous ?
Faut reconnaître que c'est pas poli-poli.
Ah ouais ? Et foutre ces ventouses toutes poisseuses sur un pantalon en cuir de caribou, c'est poli-poli ça ?
Bon, on les boucle à côté, on les bouffera plus tard.
Nous bouffer ? Mais ça va pas la tête.
Vous faites pas la patronne, bande de sagouins hydrocéphales.
Embarquez les orglubes, ils me fatiguent.
Elle a l'air appétissante comme ça, mais en vrai, elle a goût de pied.
Merci, ça fait toujours plaisir.
Vous allez vous intoxiquer, avoir une chiasse d'enfer. Encore pire que si vous aviez bu 3 litres de birlou. Je vous jure qu'elle a goût de vieux pied qui pue.
Oui, ok, d'accord, je vois bien l'intention, le presse. Mais au bout d'un moment, ça peut devenir vexant quand même.
Alors que moi, je suis bourré de vitamines et de méga 3, vous allez vous régaler.
C'est pas la peine de t'égosiller, ils ne t'entendent plus maintenant.
Bon sang, nous sommes faits comme des rats. Quand je pense qu'on va crever là, à des années-lumière de la Terre.
À moins que nous ne parvenions à nous échapper en rongeant les barreaux.
Ah, que faut pas trop y compter. C'est du sbruch polymère renforcé à la gaine de sbruch. Autant dire que c'est plus costaud que du titane.
Johnny ?
La bourboule parano. Le feuilleton, mais d'une béton.
Voilà, c'est la fin de cette nouvelle émission des poches sous les yeux. Une émission qui sera rediffusée en juin, hein, mais ça c'est certain, mais la date, on ne sait pas encore, parce qu'à cause de Quart de Tour qui arrive et qui va nous voler l'antenne pendant plusieurs jours. Voilà, mais ça sera de toute façon réécoutable, et ce coup-ci très vite, sur notre plateforme podcast-radiobéton.com, ainsi que sur les principaux sites de podcast. Merci à toutes les chroniqueurs, les chroniqueuses, et à Véro qui était à la technique. Merci au Comptoir des Arts de nous avoir accueillis. Et on se donne rendez-vous eh bien, fin juin dans un lieu dont on ne sait pas encore où ce sera. Oh, le mystère.
Des poches sous les yeux, l'émission.